si la grâce est en nous un principe de vie. C'est pour ça qu'on pourrait dire principe de vie au niveau de la vie même de Dieu. Donc un principe surnaturel. Principe surnaturel qui est donné gratuitement, mais qui n'est pas contre nature, et qui puisera dans notre nature humaine, c'est-à-dire dans notre âme, toute la vie de notre âme. Il n'y a pas deux vies différentes, séparées, c'est une vie humaine qui est transformée par la grâce. Pour devenir une vie divine. Elle est à la fois humaine et divine. La grâce ne s'oppose en rien à ce qu'il y a de profondément humain en nous. Et comme, nous allons le voir cet après-midi, comme de fait, l'homme est pécheur, la grâce sera aussi une grâce de purification. Une grâce sanance qui purifie. Et une grâce qui permet la coopération. Autrement dit, il y a diverses modalités de la grâce. Ce qui m'apporte ici, c'est de voir comment la grâce reçue dans l'âme spirituel, dans ce qu'il y a de plus radical dans mon âme, va de fait se ramifier dans les diverses puissances de l'âme, l'intelligence, la volonté. Saint Augustin dira la mémoire. Et c'est ce qu'on appelle les vertus théologales. Les vertus théologales doivent être comprises de l'intérieur du mystère de la grâce, comme une extension du mystère de la grâce dans l'intelligence, dans la volonté. Ces vertus théologales sont foi, espérance, de 30 à préciser les trois vertus théologales. Ça fait partie de la doctrine de l'Église. Alors, ici encore, comme pour la grâce, on pourra regarder en théologie biblique le point de départ de la foi. Abraham, le père. Justifié par la foi. C'est la grâce, c'est la foi qui justifie. Ça, c'est un grand problème sur lequel on va revenir tout à l'heure. Et la foi est donnée à partir de la parole de Dieu qu'on reçoit comme parole divine. Implique l'espérance, la confiance dans cette alliance et un amour. Au point de vue de théologie biblique, les trois vertus théologales sont toujours très très liées les unes aux autres. Progressivement, on peut regarder la foi parallèlement aux alliances. Comme je disais tout à l'heure, les alliances, c'est plus la grâce. Et notre réponse à l'alliance se fait par la foi, l'espérance et l'amour. On pourra regarder le développement de la foi d'Abraham à Marie. en théologie biblique, pour comprendre que substantiellement, c'est la même grâce, mais il y a une explicitation qui s'est faite d'Abraham à Marie. La foi de Marie sera à l'Annonciation explicitement une foi chrétienne. Tandis que la foi d'Abraham est avant tout une foi dans la parole de Dieu, dans la promesse de Dieu. Elle est ouverte au mystère du Christ. Abraham a vu mon jour et il a été dans la joie. Donc, la foi d'Abraham demeure ouverte au mystère du Sauveur. Mais elle n'est pas explicitement une foi au mystère du Sauveur. Elle est implicitement. Au Sauveur, dans le mystère de l'incarnation, vous comprenez, elle implique explicitement à un Sauveur. Elle ne sait pas qui est ce Sauveur. C'est la même chose pour l'espérance et pour la charité. Les trois développements sont parallèles. Et je crois que là, la théologie biblique est extrêmement intéressante. C'est un des grands thèmes. Vous voyez, souligner ces thèmes successifs. Après, il faudrait les organiser. Ce sont tous les grands thèmes de la théologie biblique. Et je crois que c'est par les thèmes qu'il faut regarder la théologie biblique. Vous voyez, regardez toutes les annonciations. Très facile à faire, sans théologie biblique. Pour comprendre le mystère de l'annonciation vers Marie. Toutes les alliances. De regarder toutes les promesses. Avec des alliances ou indépendamment des alliances. Simplement pour réaffermir toutes les luttes. Sont présentes dans la croissance de cette foi, de cette espérance et de cette charité. Vous regardez la même chose dans la théologie de l'Église, avec les précisions que l'Église dira, précisions dogmatiques. Et ceci, dès le premier concile d'Orange, on a précisé ce que c'était que la foi. L'espérance et la charité sont surtout précisées au Concile de Trente. Regardez si avant le Concile de Trente, il y a des précisions. C'est facile à voir. Mais pour essayer de comprendre le développement des vertus théologales, quand on voit les vertus théologales en saint Thomas, on prend tout de suite la ratio de la vertu théologale. Mais ça présuppose la connaissance de toutes ces révélations. C'est ça qu'il faut toujours bien comprendre. La théologie biblique est nécessaire pour que nous comprenions ces étapes, le comment des vertus théologales. Comment Dieu a-t-il voulu que nous puissions vivre de la foi? Alors là, c'est merveilleux de regarder ça dans Abraham. C'est merveilleux de regarder ça dans Isaac. Mais Isaac, c'est plus espérant. Et c'est merveilleux de regarder ça dans Jacob, qui est plus la charité. Parce que vous voyez, les épreuves du côté de la foi, les épreuves du côté de l'espérance, les épreuves du côté de la charité. Ça, c'est net. Abraham, c'est l'épreuve du côté de la foi. Et de l'espérance aussi, mais c'est la foi avant tout. Quand Dieu lui demande d'offrir son fils. L'épreuve d'Isaac, c'est l'espérance. Il bénit Jacob alors qu'il croit bénir Ésaü. C'est fameux, hein, comme épreuve de l'espérance. Vous avez deux chemins. Vous avez opté pour l'un, et puis tout d'un coup, on vous bande les yeux, et puis vous vous trouvez dans l'autre. Et bien, vous avez à ce moment-là une crise de désespoir. C'est fichu. Et Isaac ne fait pas ça du tout. Ah, je veux dire, Isaac ne fait pas ça du tout. Il dépasse tout de suite cette épreuve. Parce que son espérance repose sur la volonté de Dieu sur lui, pas sur un projet. Là, il y a quelque chose de très très grand à voir. Et Jacob, sa purification, c'est dans la charité fraternelle à l'égard du pardon. Il faut qu'il pardonne à la haine de son frère. Mais c'est pas commode de pardonner à la haine de son frère. Il faut toute une nuit en prière. C'est pour ça que depuis, il y a les adorations toute la nuit. Il faut toute une nuit en prière. Et de lutte. Il en sort victorieux. C'est grand, ces choses-là. Et là, on peut les découvrir à partir des rois après. Ça devient plus complexe. En théologie mystique, on regardera le mystère de Marie, modèle de la foi, modèle de l'espérance. Et les épreuves de Marie, préfiguré par ces épreuves des patriarches. C'est Marie qui est le modèle de la croissance de la foi. Et on reviendra toujours à Marie et à Abraham pour comprendre la foi. Toujours à Isaac et Marie pour comprendre l'espérance. Quant à la charité, c'est Jésus. De la passion. Les vertus théologales au niveau de la théologie scientifique. Ce que saint Thomas a fait. Là encore, exactement comme pour la grâce, saint Thomas se sert de deux analogies. Alors, il faut bien connaître saint Thomas pour découvrir ces deux analogies. Parce qu'ordinairement, elles sont très cachées. Mais si on est attentif, on trouve les deux analogies. Oui, c'est intéressant ça. Parce que vous n'avez pas ça du tout pour le traité de Dieu. Pour le traité de la très sainte Trinité, c'est au-delà. Alors, on se servira de fait de l'écriture directement. Et la procession, vous vous servez évidemment de l'opération vitale et de l'opération artistique, mais vous l'écartez. Donc, c'est uniquement l'opération vitale, une analogie. Ce qui est très curieux, c'est qu'avec la grâce, il y a deux analogies. Alors, j'espère que vous voyez pourquoi. C'est parce que la grâce se situe entre Dieu et l'homme. C'est le pont. Alors, quand il s'agit d'un pont, on comprend très bien qu'il y a deux points de vue pour le saisir. Point de départ alterne. C'est pour ça que pour la grâce, vous saisissez l'enracinement de la grâce dans la nature, la greffe. D'où vient la sève ? La sève vient de l'arbre. Du sauvageon. C'est une sève de sauvageon. Et la graine vient transformer du dedans le sauvageon pour qu'il donne de bons fruits. C'est exactement ça la grâce. Elle est enracinée dans notre âme. Elle sert de toute la sève, de toute la vie qui est en nous. Et la grâce est aussi une nouvelle capacité. Alors on dira habitus, qualité, explicitera le point de vue de son être. Elle en oublie. Quand il s'agit des vertus théologales, elles sont reçus dans l'intelligence, la foi. Elles sont reçues dans la volonté, espérance et charité. Ou selon saint Augustin, la mémoire et la volonté. C'est intéressant parce que vous voyez, comme toujours, je vous ai dit, saint Augustin n'a pas la précision d'une théologie scientifique de saint Thomas, au niveau de l'intelligibilité, au niveau de la recherche du nécessaire. C'est ça qui caractérise la science. C'est de saisir un rapport nécessaire. Alors on le saisit par des moyens différents. La science moderne prend d'autres voies d'accès que la philosophie et la théologie. C'est pour ça que le mot science demeure, mais il est analogique. Il a des significations très différentes. Mais toujours, la science, c'est saisir le nécessaire. Quand vous êtes dans le contingent, il n'y a pas de science. Il y a une dialectique. Il y a un essai. Il y a des descriptions. Oui. Et l'art se sert du contingent pour manifester un vraisemblable nécessaire. L'art ne cherche pas le nécessaire. Mais il exprime dans le sensible quelque chose de séduisant qui font que ça apparaît nécessaire. Dans toute œuvre artistique, c'est comme ça. Ça apparaît du nécessaire. Alors dans la rhétorique, ça se voit parfaitement. C'est l'art de la parole, donc c'est là où ça se voit le mieux. Alors, comprenez les deux analogies ici. Et alors, je veux dire... Saint Augustin prend la mémoire. Il faudrait sans doute garder ce terme-là pour la théologie de l'Église. Vous voyez, c'est comme ça que je récupère Saint Augustin. Oui. Parce que tout est mélangé dans Saint Augustin. Théologie de l'Église, théologie scientifique, théologie biblique, tout, théologie mystique. C'est pour ça que c'est si agréable. Cocktail Augustin. C'est quelque chose, c'est merveilleux au point de vue théologique. Il y a tout, alors chacun s'en sert comme il peut. Saint Thomas, ça, c'est la porte étroite. Il faut passer par là. Alors pour les esprits qui cherchent la rigueur, c'est merveilleux. On touche du nécessaire. Et il est là que tout le reste. Mais un nécessaire, à la manière de la philosophie, est tout autre que celui de la philosophie, puisqu'il repose sur la foi, qui ne donne pas du nécessaire, mais qui contient du nécessaire, qui implique, puisqu'elle nous lie à Dieu. Alors, comprenons l'intelligence. Que va faire la foi ? On va avoir deux analogies. Première analogie pour la foi, c'est celle que saint Thomas reprend à la suite de Denis, à la suite d'Albert le Grand. C'est le point de vue de l'habitus des premiers principes. J'allais presque dire des premiers axiomes. Ce serait presque plus juste. L'habitus des premiers principes. Le principe de non-contradiction. Mais c'est un axiome. Tout ce qui est mu, mis par un autre, c'est un axiome. Des axiomes pour toutes les parties de la philosophie. Donc, il y a un habitus qui me permet ça. Parce que ça me donne la lumière. La foi me donne la lumière sur des vérités premières qui me sont données dans l'Écriture. Mais l'habitus des principes va jouer comme analogie pour montrer la foi-lumière. Et saint Thomas se sert, à partir du De Veritate, déjà, dans son commentaire des sentences, mais très peu, de la foi l'analogie de la foi humaine. Il y a une foi humaine. J'ai confiance en mon ami. Tout ce qu'il me dit, je l'accepte. J'ai foi en lui. Pistis, c'est le même mot grec. Pistis, c'est la foi. J'ai confiance. C'est la foi confiance. Vous voyez ? Alors c'est très intéressant parce que c'est les deux aspects de la foi. La confiance, c'est l'amour. Et le point de vue de la vie, c'est le premier principe, c'est la lumière. La foi est une lumière amoureuse et aimante. Donc c'est normal qu'il y ait ces deux analogies, du côté de l'amour et du côté de la confiance et du côté de la lumière des premiers principes. Et vous retrouvez ça constamment dans un Thomas. Alors, si on ne saisit pas ça, c'est parfois gênant. Parce que la foi confiance, c'est montrer toute la part de la volonté dans la foi. Je veux croire, je crois. Et l'autre, c'est la foi principe de vie, qui éclaire ma prudence, qui est là comme point de départ de toute la théologie. Donc, il y a deux aspects très très différents. Saint Thomas va essayer de préciser. Et c'est la grandeur de son traité de la foi. Qu'est-ce que c'est que la raison de foi ? Ratio fidei. Et c'est ça qui est très, très déroutant pour un bibliste, pour un exégète. Dans la théologie biblique, je vous ai dit tout à l'heure, je vois la manière dont les croyants croient. Saint Thomas va chercher qu'est-ce que c'est que la foi ? La raison de foi. La raison de foi surnaturelle. Qu'est-ce que c'est que la foi surnaturelle ? Et comme la raison, comme le point de vue de la foi est dans l'intelligence, cet habitus est nécessairement déterminé par un objet qui le spécifie. Quel sera l'objet propre de la foi si je me place du côté de la ratio fidei ? Ce sera la vérité première se révélant. Ce qui me fait comprendre que tout acte de foi me met directement en présence de Dieu, la vérité première. Directement en présence. C'est quelque chose d'extrêmement important, ça. Saint Thomas ne dit pas que la raison de la foi est premièrement spécifiée par la parole de Dieu. Ce que nous disons toujours, nous. Ça, la foi me permet de recevoir la parole de Dieu. Non. La raison de foi. Alors, voyez, c'est peut-être là, ça nous fait mieux comprendre ce que c'est que la théologie scientifique. Il y a certains lieux où il faut insister davantage pour comprendre ce que c'est que la théologie scientifique. Il y en a qui le disent beaucoup moins bien. Je vous ai dit la simplicité de Dieu. Puis maintenant, la foi. La première question de la foi dans saint Thomas. Et le premier article où il montre son point de vue. En théologie biblique, je ne dirais pas ça du tout. Tirer la foi, c'est recevoir la parole de Dieu. Et c'est très vrai. La foi, c'est recevoir la parole de Dieu. C'est Abraham qui reçoit la parole de Dieu. C'est Isaac qui reçoit l'alliance. la théologie scientifique va préciser quelque chose de plus. Au-delà de cette manière particulière de croire, n'oublions pas ce qui caractérise la foi surnaturelle comme foi surnaturelle, et non pas sa manière. Donc vous voyez, le souci de chercher scientifiquement ce qu'est la foi, et pas seulement ses modalités, ou la modalité la plus classique, Marie à l'Annonciation, la foi contemplative chrétienne. C'est très beau, il ne faut surtout pas supprimer ça, il faut aller plus loin. Et donc, pour aller plus loin, on va essayer, comme on voit Abraham, Marie, on est tenté de dire deux modalités différentes, donc une foi différente. Celle de l'Ancien Testament, celle du Nouveau Testament. Les modalités sont tellement différentes. Ici, on est imparfait, là, parfait. Bienheureux dans sa foi. On n'a jamais dit qu'Abraham était bienheureux dans sa foi. C'est une foi imparfaite. Entre parfait et imparfait, on a la tentation de dire c'est différent. Non, il y a quelque chose de commun. Et ce quelque chose de commun, il s'agit de saisir et d'expliciter. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Marie et Abraham? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Il y a quelque chose de commun. Et la raison de foi me permet de préciser ce qu'il y a de commun entre les deux. Oui, voilà comment l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, si je regarde ces deux théologies, m'obligent de poser quelque chose qui est au-dessus. Oui, une sorte d'induction. Une sorte d'induction. Ce n'est pas au sens absolu une induction, mais c'est une sorte d'induction. Je passe de la diversité de certaines modalités à ce qui commande ces modalités, ou plus exactement, ce qui est commun au-delà de ces modalités et à l'intérieur de ces modalités. Donc on va chercher ce que c'est que la raison de foi. La raison de foi, c'est un don que Dieu me fait, qui me permet de dépasser toutes mes connaissances humaines pour être directement en relation, en contact avec Dieu qui se révèle à moi. Donc, la raison formelle de la foi, la raison de l'objet, formel de la foi, c'est la vérité première se révélant. La vérité première se révélant à Abraham, à Marie, selon deux modalités différentes. Donc j'ai au-delà des modalités, des manières différentes de vivre ma foi, je saisis ce qu'est la foi. La ratio, la raison de l'objet formel de foi. Alors vous voyez, ça permet de saisir l'apport philosophique de sagesse. Vous allez comprendre. L'intelligence humaine est capable d'être surélevé par une lumière divine. Pourquoi? Parce que cette intelligence est faite pour ce qui est, dans toute son extension, de manière différente. Ce qui est dans l'ordre sensible, je le touche. Ce qui est dans l'ordre lumière, je le vois. Difficile de toucher la lumière. C'est très vrai. Très difficile de toucher la lumière. Essayez de la toucher. Il vous la voyez. En la voyant, vous la touchez. Il y a quelque chose de particulier à la vue. C'est très important, vous voyez, pour ne pas ramener toute la connaissance au mesurable. Parce que toucher et voir, c'est différent. Goûter. Je goûte la lumière, comme c'est bon. Ouvrez tout dans votre bouche au soleil. En réalité, quand vous dites que vous goûtez la lumière, vous goûtez la chaleur de la lumière. C'est pas la lumière. Et ainsi de suite, vous voyez, on découvre progressivement que l'intelligence est faite pour ce qui est, en tant qu'il est. Or, ce qui est, en tant qu'il est, oui, ce que je saisis en premier lieu, c'est des êtres limités. Mais ce qui est comme tel n'est pas limité. Et donc mon intelligence est ouverte à l'être premier. Si cet être premier est ouvert, il existe, il est. Mon intelligence est ouverte à lui. Et si cet être premier veut se révéler à moi, mon intelligence humaine sera incapable d'écouter cette parole, sauf si celui qui me parle, qui est mon Dieu, mon Créateur, vient permettre à mon intelligence d'être surélevée pour écouter cette parole. Elle est surélevée par la foi. Vous voyez comment je peux essayer d'expliquer la nécessité de la foi. Ça m'est révélé. Mais ça m'est révélé en termes de justification. Et le philosophe peut, au service de la foi, au service du croyant, montrer la nécessité de la foi pour que mon intelligence puisse écouter la parole. Mais pour cela, il faut que mon intelligence discerne l'analogie propre de l'analogie métaphorique. Et c'est là où la nécessité de la métaphysique et de la sagesse apparaît. Parce que les analogies métaphoriques restent sensibles et donc ne montrent pas l'ouverture de mon intelligence à l'être infini. Seule l'analogie propre n'est pas limitée, et donc elle peut s'élever jusqu'à Dieu. Tandis que toute analogie métaphorique est liée à notre monde physique, parce que c'est un langage symbolique. Et c'est à propos du traité de la foi que je saisis le mieux la nécessité d'avoir une philosophie métaphysique, une sagesse philosophique, pour discerner les analogies métaphoriques et les analogies propres, pour montrer que mon intelligence est capable d'unir en elle quelque chose d'infini en acte et quelque chose capable d'être infini. Ce qui est capable d'être infini, c'est les analogies propres. Ce qui est infini en acte, c'est la parole de Dieu. La signification de la parole de Dieu. Oui, dans la réflexion que nous ferons cette année-ci sur la parole de Dieu, vous serez tout de suite affronté à ce problème. Quand saint Augustin dit que toute parole divine a des significations infinies, les exégètes n'aiment pas ça du tout. Je comprends. Parce que s'ils prenaient ça comme application à leur exégèse, la science exégétique sauterait. C'est de la dynamite. mais je suis obligé d'accepter pour la théologie scientifique, puisque c'est grâce à ça que la théologie scientifique peut exister. Comme c'est curieux comme réaction, vous voyez. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça permet justement de comprendre la diversité d'une théologie biblique, qui est une sagesse, et la théologie et l'exégèse. Et c'est à propos de la foi qu'on peut le faire, le mieux. Donc comprenons que ce que dit l'exégète, ce que dit la théologie biblique, est exact et très juste. Ma foi passe par la parole de Dieu. Je ne suis pas dans l'illuminisme. Certains pourraient dire, moi, je n'accepte que ce qui vient de l'intérieur et de l'Esprit Saint. Je n'accepte que ça. Donc la parole, ça m'est égal. Jusqu'au jour où l'Esprit Saint du dedans m'éclaire. Je ne dirai pas du tout. Votre foi chrétienne implique une objectivité, même si vous ne sentez rien du tout. Vous croyez que la parole de Dieu est une parole divine. Parce que Dieu s'est révélé en se servant de la parole humaine. Donc, je lis la ratio fidei, la raison de l'objet formel de la foi, au langage dont Dieu s'est servi, qui n'est qu'une modalité. Mais, de fait, je sais que cette raison de l'appui formel de la foi est toujours donnée dans la parole de Dieu. Donc j'unis la raison à son mode. Et cela ne me gêne absolument rien. C'est simplement une précision. Mais si j'avais une philosophie heideggerienne, je ne pourrais pas faire ça. Puisque l'être est séparé de l'étant. Donc, la raison est séparée de sa modalité. Vous voyez, je dis ça pour que, petit à petit, il faut exercer son intelligence. On arrive à jongler avec tout ça. À jouer sur les quatre claviers tout le temps. Dès que vous êtes en théologie, jouez sur les quatre claviers. Vous comprenez les quatre claviers. Théologie scientifique, théologie biblique, théologie de l'Église, théologie mystique. Tout le temps. Et si vous ne faites pas ça, vous retombez dans l'univocité. Et vous tuez la théologie. Oui.
En théologie mystique, puisque la foi et la nécessité de la foi se prend à partir de la vision des Écritures, est-ce qu'on peut commencer par la vision, la lumière de gloire, une
oui.
Réflexion sur la foi?
On peut très bien commencer par là, parce que vous vous servirez de la lumière de gloire pour comprendre ce que c'est que votre raison. Oui, en théologie mystique.
Alors, est-ce que par rapport au Christ, il n'a pas la foi, il a la vision?
Oui, mais ça justement, c'est encore mieux. J'ai dit que la foi c'était Marie, je n'ai pas dit que c'était le Christ. Oui, justement à cause de ça.
Justement, le lien entre le passage, comment serait le passage entre ma réflexion sur la vision?
Parce que le parfait ne dépend pas de l'imparfait, mais l'imparfait dépend du parfait. La raison, vous avez toutes les questions. La raison de l'appui formel de foi ne dépend pas de cette modalité particulière qui est de recevoir la vérité première à travers une parole. Bien que de fait, ce soit comme ça, elle ne dépend pas de ça. C'est ça qui est très grand théologie scientifique. C'est qu'on est au-delà des manières particulières. C'est vraiment l'intelligence au service de la parole de Dieu. Au service de Dieu qui nous parle, de la révélation. Oui.
Dieu se révèle également à travers les dames aussi, non?
Oui, oui, c'est la même chose. Tout à fait.
C'est la parole de Dieu?
Quoi, c'est la parole de Dieu, parce que c'est révélé. Dites pas, c'est la parole de l'Église. Est-ce que votre foi en l'Église et la foi dans le Christ est la même? Vous voyez, suis tout à fait. C'est là où le modernisme va jouer. Vous voyez, en disant les dogmes, c'est le modernisme et l'herméneutique d'aujourd'hui. Le dernier petit fruit du modernisme.
Oui. Mais pourquoi est-ce que saint Thomas lui-même nous dit, enfin, dit l'objet formel, c'est la vérité première.
Oui.
Mais c'est
se révélant.
Se révélant, enfin, ça a été ajouté après.
Oui, mais ça, c'est impliqué. Là, c'est Cachetan qui l'ajoute. Il a tout à fait raison pour nous aider. Ça, je dis ça, parce que c'est Cachetan qui le dit. Et là, il a tout à fait raison. C'est là, puisque, vous voyez, l'objet formel, c'est la vérité première. Mais c'est impliqué qu'elle se révèle, puisque c'est la foi. Je pars de la foi. S'il n'y avait pas de révélation, il n'y avait pas de foi. Oui.
Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer la parole de Dieu comme matéria?
Comme matéria?
Oui.
Non. Elle fait partie de l'objet formel. Mais dans les faits révélés et dans les paroles, je distinguerai ce qui est matériel et ce qui est formel. Oui, Dieu se révèle à nous comme étant Dieu. Est-ce que c'est matériel? Vous voyez votre petite tentation, hein? C'est de regarder. Tentation intellectuelle. C'est justement de ramener l'objet propre de la foi, donc le sens littéral au sens historique. Vous voyez ? Le sens littéral n'est pas seulement historique, puisque l'objet formel de la foi, c'est la vérité première se révélant, qui n'est pas historique. C'est pour ça que c'est si important de voir ça. Tant qu'on ne voit pas ça, on ne verra pas que l'objet, que le sens littéral de la parole de Dieu ne peut pas être rivé à l'histoire, ne peut pas se ramener à l'histoire. Il implique l'histoire. Jésus est né à Bethléem. On ne dit pas exactement l'année, on l'a dit quand même. Il est né à tel lieu, historique, vérité historique. Il est mort à Jérusalem, vérité historique. Mais le sens littéral n'est pas lié, parce que le sens littéral, c'est le sens formel. C'est rattaché à la ratio formelle. Formelle de l'objet. Oui. Puisque la raison formelle se distingue de ce qui est connu, mais n'est pas séparé de ce qui est connu. Réfléchissez là-dessus. Hein? Ça demande de la réflexion, ça. Mais c'est rigoureusement vrai. Si je saisis ça, j'échappe à tout positivisme. Donc, la théologie scientifique me permet d'échapper au positivisme. À ce point de vue-là, c'est merveilleux. Et c'est très grand. Alors, faites la même chose pour l'espérance. Quelles sont les deux analogies? Faites la même chose pour la charité. Quelles sont les deux analogies? Il y en a une qui se voit tout de suite. Hein? L'analogie de la charité, c'est la philia. L'amitié. Pas seulement que l'amitié. C'est l'amitié, c'est évident. J'ai une expérience de l'amitié et grâce à la charité, j'ai un lien d'amitié avec Jésus. Une amitié surnaturelle. Alors, quelle sera l'autre analogie? Pour l'espérance, c'est l'espérance, la passion-espérance. Présuppose une promesse. Toute promesse éveille en moi une espérance. Donc c'est ce lien entre les deux. Quelle est la seconde analogie? Je ne vous la dis pas. Cherchez-la. cherchez-la. Elle est très cachée.